24 décembre 1414.
Petit Pourceau traîné et pendu par les jambes de derrière pour meurtre d'un enfant, suivant sentence du mailleur et des échevins d'Abbeville.
Année 1497.
Truy, condamné à être assommé pour avoir mangé le menton d'un enfant du village de Charonne.
Le 8 septembre 1488.
Mandat au curé de faire 3 invitations aux limaces de cesser leurs dégâts et, faute par elles d'obtempérer à cette injonction, de les excommunier.
Le procès des radotins, second épisode, mythe ou réalité? Grégoire Ossoa, Agnès Catou.
Les procès contre les nuisibles, contre les rats, contre les insectes, ça n'est pas ridicule en fait au Moyen-Âge.
Ninon Maillard, maîtresse de conférences en histoire du droit à l'université Paris-Nanterre.
C'est possible à une époque où, justement, les rats sont des animaux avec lesquels on vit. Ce ne sont pas des animaux domestiques, mais ce sont des animaux que l'on trouve dans nos maisons. Donc, même s'ils ne sont pas baptisés, les nuisibles sont des créatures de Dieu.
Jusqu'au XVIe, XVIIe siècle, on voit bien par les procès que ces animaux sont considérés comme des créatures de Dieu.
Éric Baraté, professeur d'histoire contemporaine à l'université Lyon 3.
Ça, à partir du XVIIe siècle, ça disparaît au niveau des élites cultivées, hein. Pas dans le monde paysan, il faut attendre le 19e siècle du côté paysan. Alors pourquoi ce changement? Ben tout simplement parce que les élites sociales et intellectuelles, aussi bien chez les laïcs que dans l'Église, changent de vision du monde. On va avoir une vision beaucoup plus biologique, beaucoup plus mécanique des animaux. C'est l'époque du rationalisme que Descartes a théorisé. Et ça s'accompagne d'un changement de vision de Dieu. Dieu n'est plus l'être qui interviendrait sans cesse, qui enverrait des insectes pour punir les humains, etc. Dieu est vu comme un grand horloger, un grand ingénieur qui a créé le monde comme une machine. C'est Galilée, c'est Kepler, c'est Newton, c'est-à-dire le monde peut se décrire avec des équations. Donc, Dieu est un grand mathématicien et il est évident que ce Dieu grand horloger ensuite n'intervient plus. Il a autre chose à faire. Alors le protestantisme a été un facteur extrêmement important dans cette reconfiguration des mondes, hein, puisque dès le XVIe siècle, le protestantisme va s'insurger contre toutes ces pratiques, les excommunications contre des animaux, mais aussi la présence des animaux dans les vies des saints, par exemple, hein. Et ensuite, ce sont les hommes des Lumières qui vont reprendre ces critiques à leur compte, hein. Voltaire, par exemple, se moque des excommunications d'animaux. Il y a une espèce de dépréciation du monde animal. Et on ne va plus les intégrer dans la communauté des créatures de Dieu ou dans la communauté surtout de l'Église. L'Église va être réduite aux humains. Et ça se traduit au niveau du droit, puisque le droit va aussi être réservé aux humains, sous prétexte qu'il n'y a que les humains qui sont des créatures rationnelles, qui ont une moralité, qui peuvent être punies, etc., etc. Et donc tout ça fait que on ne voit plus pourquoi excommunier les animaux. On n'y croit plus à tout ça.
Pourquoi l'homme est-il perfectible et pourquoi l'animal ne l'est-il pas? L'animal ne l'est pas parce que sa raison, s'il en a une, est dominée par un sens despote qui la subjugue. Toute l'âme du chien est au bout de son nez et il va toujours flairant. Toute l'âme de l'aigle est dans son œil, et l'aigle va toujours regardant. Toute l'âme de la taupe est dans son oreille, et elle va toujours écoutant. Mais il n'en est pas ainsi de l'homme. Il est entre ses sens une telle harmonie qu'aucun ne prédomine assez sur les autres pour donner la loi à son entendement. C'est son entendement, au contraire, ou l'organe de sa raison qui est le plus fort. C'est un juge qui n'est ni corrompu, ni subjugué par aucun des témoins. Il conserve toute son autorité et il en use pour se perfectionner. Réfutation d'Helvétius, 1774, Denis Diderot.
Alors, la théorie de l'animal-machine, c'est une théorie qui date de la fin 16e, qui est surtout à la mode au 17e siècle. C'est l'idée que seul l'homme a une âme. C'est l'âme qui est importante. Et de l'autre côté, vous avez les animaux, les plantes, c'est de la mécanique. L'univers, c'est de la mécanique, avec les lois de Kepler, etc. On sait calculer la trajectoire des planètes. Tout ça, ce sont des machines. Donc l'animal devient un objet. Et là, on va lancer l'idée que ces animaux produisent plus. Ça sera l'idée d'animal machine produisant de la viande et du lait et l'idée d'animal moteur au 19e siècle. Et puis, ce sont les historiens ou les juristes du 19e siècle qui vont ressusciter ces procès exactement comme à la même époque on ressuscite la sorcellerie. C'est le 19e siècle qui redécouvre le Moyen-Âge. Après l'époque des Lumières, qui ne voulait plus entendre parler du Moyen-Âge, l'époque gothique, l'époque barbare, eh bien, à partir des années 1840, c'est le retour au Moyen-Âge. On va beaucoup s'intéresser aux pratiques. Et donc, redécouverte des procès de sorcellerie qu'on avait complètement oubliés, c'est Michelet qui montre que ça avait existé. Et puis, notamment de la part de juristes historiens du droit, qui vont écrire sur ces procès d'animaux. Parce qu'évidemment, on les redécouvre, et ça étonne beaucoup, ça interroge énormément. Qu'est-ce que c'est que cette époque qui a pu faire des procès d'animaux? Alors à la fois c'est incompréhensible, et en même temps, justement parce que c'est incompréhensible, on va se prendre de passion pour cela. Comment pouvait-on faire? Et en fait, il va falloir du temps pour qu'on comprenne qu'en fait, on était dans une autre vision du monde, une autre vision de Dieu, une autre vision de la création, du droit, etc., etc. Lorsqu'on redécouvre ces procédures, exorcisme et excommunication, on les redécouvre d'une manière un peu aléatoire. Ce qu'on redécouvre, en fait, là, en priorité, ce sont les textes des juristes ou des théologiens des 16e, 17e siècle qui se sont mis à débattre de la légitimité de ces procédures. Au XVIe siècle, c'est plutôt pour les justifier, face notamment à la critique protestante. Et au XVIIe siècle, c'est plutôt pour dire qu'il faut arrêter cela. Donc ce qu'on redécouvre en priorité, c'est ça. Avec des exemples cités par les gens des XVIe, XVIIe siècles.
Le procès des radotins fait partie de ces exemples cités par les érudits du XVIe et du XVIIe siècle. Quelques centaines d'années plus tard, dans la petite ville de Durham, en Caroline du Nord, à plus de 6000 km de la Bourgogne, un professeur d'histoire américain se prend de passion pour cette affaire. Gabriel Rosenberg, professeur d'histoire à la Duke University.
I found the most detail about it in a book by Edward Payson Evans called The Criminal Prosecution and Capital Punishment of Animals.
C'est dans le livre Poursuites judiciaires et peine de mort contre les animaux, écrit par Edward Payson Evans au début du XXe siècle, que j'ai trouvé le plus de détails sur les procès des radotins. Il s'agit d'une compilation de tous les procès d'animaux recensés dans les archives en Europe depuis plus de 1000 ans. Il y a quelques années, je faisais des recherches sur des spectacles publics tout à fait inhabituels qui se déroulaient aux États-Unis au début du XXe siècle. À l'époque, des représentants du ministère de l'Agriculture parcouraient le pays et organisaient dans des petites villes de campagne des procès contre des taureaux d'élevage en raison de leur infériorité héréditaire. C'était en quelque sorte des rituels au cours desquels les animaux étaient en général, et même, devrais-je dire, à chaque fois, condamnés. C'était de grands spectacles destinés à éduquer le peuple sur les critères d'un élevage de qualité. Au cours de mes recherches sur ces spectacles publics, j'ai commencé à m'intéresser sérieusement aux procès d'animaux, dont on trouve les racines principalement notamment en Europe et aussi en Amérique du Nord. C'est à ce moment-là que j'ai découvert le procès des rats d'Autun et que je me suis passionné pour cette histoire. Plus je m'y intéressais, plus j'étais fasciné pour ce que j'appellerais l'histoire dans l'histoire. C'est-à-dire comment ce procès nous est parvenu, a-t-il vraiment existé, et quelles interprétations plusieurs générations successives d'historiens en ont faites. Pas seulement sur la question de l'authenticité du procès, mais aussi sur ce que ces historiens voulaient faire dire à cet événement, le sens politique qu'ils voulaient lui donner.
So, I did not write about the trial initially. I tweeted about it.
Je n'ai pas tout de suite écrit d'article sur le procès des rats. J'ai simplement tweeté dessus dans un fil qui a été plutôt beaucoup partagé. Je ne suis plus actif sur Twitter aujourd'hui, mais à l'époque, j'avais entre 15 et 16 000 abonnés. Je venais de découvrir cette histoire et je l'ai partagée en me disant qu'elle était extrêmement intéressante et complètement sensationnelle. Donc je dois bien admettre que j'ai contribué à faire populariser le procès des rats d'Autun. Et puis, alors que j'approfondissais mes recherches, j'ai commencé à avoir des doutes. Quand les doutes sont arrivés, j'ai décidé de me poser des questions vraiment basiques. Sur quoi Evans se basait pour raconter cette histoire ? Quelles sources citait-il ? Et est-ce que je pouvais vérifier ces sources ?
And so what I did was I went back to Evans's text, which was the text that all contemporary scholars were citing. And
ce que j'ai fait donc, c'est que j'ai consulté le livre d'Evans, qui est celui que citent la plupart des historiens contemporains. J'ai noté tous les textes auxquels Evans faisait référence, je les ai trouvés, et j'y ai systématiquement cherché les sources que leurs auteurs mentionnaient. Cette méthode m'a mené à une succession de textes dont le tout premier date du XVIe siècle. Il s'appelle « L'histoire des martyrs » et a été écrit par Jean Crespin.
Alors Jean Crespin, ou Jean Crespin, c'est un homme qui appartient à la bonne bourgeoisie de la ville d'Arras, qui est né en 1520 et qui est mort en 1572 à Genève.
David Elkins, maître de conférences en histoire moderne à l'université de Bourgogne.
Qui fait une carrière de juriste, comme souvent on le faisait à l'époque. Et dans une deuxième partie de sa vie, connaît un bouleversement, c'est-à-dire le succès des idées nouvelles, des idées protestantes. Et il devient un renégat de sa ville. Il doit quitter Arras, parcourir l'Europe protestante, Paris, Strasbourg, puis finalement Genève, ville dans laquelle il s'installe en 1548. Et alors qu'il était un avocat, un juriste, promis à peut-être des hautes fonctions dans sa ville d'Arras, qui est une ville très dynamique, très riche à l'époque, eh bien, il change de métier, il devient auteur, il devient un des plus gros éditeurs-imprimeurs de la ville de Genève. Et qu'est-ce qu'on édite comme livre à Genève dans les années 1550-1560 ? Eh bien, on édite des livres protestants pour propager sa foi. Et parmi ces livres, il publie un ouvrage particulier, une histoire de martyrs, ce qui est très étonnant pour les protestants qui se méfient énormément du culte des martyrs, qui est associé aux merveilleux catholiques qu'ils combattent. Et Jean Crespin décide de relater les aventures de ces femmes et de ces hommes, essentiellement de ces hommes, qui ont accepté d'aller en justice et de mourir pour proclamer la vérité. Concrètement, ce sont des récits de vie du héros de la foi. Alors, l'expression que les protestants utilisent au XVIe siècle, c'est plutôt « héros de la foi », pour se distinguer très clairement des martyrs du Moyen-Âge et surtout du culte des martyrs. Tout d'abord, il faut rappeler que pour les protestants, ces héros de la foi sont des modèles, sont des exemples. Donc, Jean Crespin présente les circonstances de l'arrestation du héros de la foi, la manière dont le héros de la foi s'est comporté durant l'interrogatoire, puis durant la procession qui le conduit au supplice et se livre à un énorme succès au-delà de sa mort. Il meurt de la peste en 1572 à Genève et il va continuer à être édité jusqu'au début du XVIIe siècle. Et c'est dans cet ouvrage où il y a ce fameux procès des rats. Alors l'ouvrage est centré sur quelques affaires célèbres, comme les massacres des Vaudois. Les Vaudois, c'est une hérésie ancienne, hein, du XIIIe siècle. On attribue ce courant religieux à un Lyonnais, Jean Valdès, d'où le terme de Vaudois. C'est une hérésie assez traditionnelle à l'époque médiévale, c'est-à-dire qu'elle reproche à l'Église d'être trop riche, trop puissante, trop séculière, trop temporelle. Ils aspirent à la pauvreté, au retour à une vie évangélique. Ces Vaudois sont pourchassés par l'hérésie, se dispersent, réapparaissent dans l'histoire religieuse au XVIe siècle lorsqu'ils se rallient au protestantisme en 1532. C'est alors qu'on apprend leur existence. On pouvait penser légitimement qu'ils avaient disparu. Il y a une nouvelle visibilité de ces Vaudois à travers leur ralliement au protestantisme. Et les autorités en France réalisent qu'il y a des villages peuplés de Vaudois qui sont désormais des protestants, hein, notamment en Provence, dans cette région du Luberon. Et ces tensions aboutissent à une convocation au Parlement d'Aix-en-Provence en 1540. C'est le fameux arrêt de Mérindol qui condamne un certain nombre de Vaudois qui avaient été listés pour leurs activités religieuses. Et parce qu'ils ne se sont pas présentés à la cour, ils sont condamnés à mort par contumace.
Histoire mémorable de la persécution et saccagement du peuple de Mérindol et Cabrières et autres circonvoisins appelés Vaudois, 1556. Par cet arrêt, les hérétiques de Mérindol, assignés à comparaître, convaincus de crimes de lèse-majesté divine et humaine, furent condamnés à être brûlés et leurs biens acquis et confisqués au roi. Mais aussi, par le dit arrêt, furent condamnés tous les manants et habitants du dit Mérindol, auquel lieu il y avait bien 80 ménages, à être tous brûlés, tant hommes que femmes qu'enfants, sans réserver aucune personne. Et par ce même arrêt, fut dit que toutes les maisons de Mérindol seraient abattues et le village rasé, déshabité et tous les arbres coupés, tant oliviers qu'autres, sans rien laisser, et ce, à 500 pas à la ronde, pour rendre le lieu du tout inhabitable.
La question est, comment doit-on exécuter cet arrêt de Mérindol ? Cette décision judiciaire et administrative, logiquement, aurait dû être appliqué dans les semaines qui suivent, comme c'était le cas dans la justice d'Ancien Régime, où on exécute en général assez rapidement les décisions judiciaires. Ici, l'énigme, c'est que cet arrêt ne fut pas exécuté dans cet hiver 1540-1541. D'où le récit du procès des rats, qui expliquerait, selon Jean Crespin, l'ajournement de cet arrêt. Chasseneux, notre Barthélemy Chasseneux, qui donc avait, dans sa jeunesse, participé à des procès d'animaux et notamment de rats, est devenu premier président au Parlement d'Aix. C'est donc le personnage le plus important dans la hiérarchie judiciaire en Provence. Donc, Barthélemy a pour charge de faire exécuter l'arrêt. Dans le récit que nous propose Jean Crespin, le personnage le plus important, en réalité, selon moi, ce n'est pas Chasseneux, c'est le fameux seigneur d'Aliens. Sieur d'Aliens, donc, rappelle à Chasseneux qu'il a participé à une affaire de procès d'animaux lorsqu'il était jeune avocat. Eh bien, le sieur d'Aliens dit à Chasseneux, « Monsieur, souvenez-vous du conseil que vous avez écrit en chose de néant lorsqu'étant avocat du roi à Autun,
monsieur, vous défendîtes les rats. Souvenez-vous du conseil que vous avez écrit en chose de néant lorsqu'étant avocat du roi à Autun, vous défendîtes les rats et remontrâtes que le terme à eux donné pour comparaître était trop bref. Et davantage, qu'il y avait tant de chats au village que les 10 rats avaient juste cause d'absence, etc. Or, s'il est ainsi, monsieur, que par tel plaidoyer, d'une matière de vaine importance, vous ayez acquis ce bruit d'avoir dextrement remontré la manière par laquelle les juges devaient procéder en matière criminelle, ne voulez-vous point maintenant prendre droit par votre livre même qui vous condamnera manifestement si vous procédez plus avant la destruction de ces pauvres gens de Mérindol?
Si vous procédez,
ne valent-ils pas bien qu'on leur garde autant de droits et équité que vous avez gardé aux rats?
Autant de droits et équité que vous avez gardé aux rats. Donc, on a une double analogie. D'Aliens rappelle à Chasseneux l'analogie des rats égale vaudois et des chats égale le clergé qui en veut à ses vaudois. Autrement dit, il doit renoncer à l'exécution de l'arrêt de Mérindol comme 20 ans auparavant, il défendait les rats contre la sentence d'excommunication.
Chasseneux est particulièrement touché par ce que lui dit Dayens. Il retarde l'application de l'édit, mais ensuite il meurt. Donc inévitablement, les hérétiques finissent par être massacrés. Mais on ne sait pas d'où Jean Crespin tient cette histoire. Et peut-être a-t-il confondu des détails. Plus je cherchais, plus je devenais sceptique. Ça ne veut pas dire qu'il est impossible que le procès des rats ait eu lieu. Il y a quelques détails qui vont dans le sens de sa véracité. Mais je ne pense vraiment pas qu'il s'agisse de preuves solides. Il y a tout de même 50 ans d'écart entre la date supposée du procès des rats et la soi-disante rencontre entre Dayens et Chasseneux que Crespin raconte à partir de Ouï-dire.
Est-ce que Crespin a tout inventé? Alors, dans l'histoire des guerres de religion publiée par Jacques-Auguste de Thou au début du XVIIe siècle, on retrouve le récit de Crespin, quasi mot pour mot, avec les mêmes arguments. Or, Jacques-Auguste de Thou est une autorité éminente à la fois dans l'historiographie française et dans l'histoire du droit. Donc, le récit de Crespin, maintenant, a la caution d'une autorité, entre guillemets, impartiale par rapport à celle de Jean Crespin, qui, lui, est aussi un propagandiste.
So, Crespin is the originator, and then it's Auguste de Thou, or de Thou, pardon me, in...
Donc Jean Crespin est l'initiateur de la rumeur qui est reprise ensuite par Jacques-Auguste de Thou au XVIIe siècle et se poursuit avec des écrivains du XVIIIe et du XIXe siècle. Ce sont ces auteurs qu'Evans utilise comme source. C'est donc la chaîne de diffusion de cette histoire du procès des rats.
Et tout le problème vient du fait qu'en fait ces exemples sont enfouis au fond des archives.
Éric Baraté, historien.
Il faut aller les chercher, ils n'apparaissent pas comme ça, il y aurait vraiment une quête, en fait, comme chercher des aiguilles dans des paquebots de foin, hein, qui n'est toujours pas faite actuellement en début du XXIe siècle. Et résultat, les auteurs, ceux qui se sont intéressés à ça, soit pour essayer de comprendre, soit pour s'en moquer, ont eu tendance à se copier les uns les autres. Hein. En gros, pendant 2 siècles, 19e et jusqu'au début, fin 20e, la plupart du temps, les gens ont copié ce qui avait été écrit 10, 20 ans auparavant, avec le cortège d'erreurs, d'imprécisions, d'incompréhensions qui vont avec.
Est-ce que ces procès sur les rats, ces procès sur les insectes ont tous été mis en œuvre et ont tous été des réalités historiques? Non.
Ninon Maillard, historienne du droit.
Quand on travaille sur ces textes de Chasseneux et quand on travaille sur ces textes de droit savant, je crois qu'on n'est pas à la recherche de la vérité, des faits. Ce n'est pas vraiment ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est davantage les représentations et l'idée que l'on se fait de l'efficacité de ces procédures comme une réponse à un problème concret. En fait, ce qui est vrai, ce sont les dévastations. Ce qui est vrai, c'est la demande de solution. le procès des rats d'Autun, on n'en trouve aucune trace dans les archives. Donc la réponse, ça serait peut-être que non, ce procès n'a pas eu lieu, mais il y en a eu plein d'autres. Donc les procès contre les animaux, c'est une réalité. Ce procès contre les rats d'Autun, peut-être pas.
Archives France Inter, 2015.
Non, les animaux ne sont pas des meubles. Y avait-il besoin de le préciser ? Dans le Code civil, oui. Et c'est chose faite, désormais reconnus comme des êtres doués de sensibilité. Camille Labrousse. Le Code rural reconnaissait déjà les animaux comme des êtres sensibles, capables de souffrir. Au Code civil, maintenant, de franchir le pas. Ça concerne les animaux domestiques, c'est-à-dire les chats, les chiens et ceux destinés à l'élevage, mais aussi les bêtes sauvages. Un changement énorme.
La modification du Code civil en 2015, avec l'idée d'animal sensible, montre qu'en fait, on est en train de fermer une époque, cette époque 17e, début 21e, qui faisait de l'animal un bien meuble, un objet, une machine, etc. Et qu'on est en train d'ouvrir une autre époque qui prend en compte l'animal en tant que tel, hein, qui prend en compte l'idée que ce sont des êtres aux grandes capacités, très riches, très multiples, et qu'on ne peut plus les qualifier de machines ou de bêtes instinctives ou d'objets, etc. Ça n'est plus possible. Sur certains points, on revient à l'avant 17e, dans le sens où on est beaucoup plus sensible à ce qui fait la communauté entre nous et les animaux qu'à ce qui fait la différence. De la même manière, avant le 17e siècle, on est plus sensible à l'idée de communauté de créatures de Dieu, et bien là, de nos jours, on est beaucoup plus sensible à l'idée de communauté de créatures souffrantes, de créatures sensibles, de créatures ayant des capacités. L'idée d'intelligence, par exemple, au XVIIe siècle, on a adopté une définition humaine de l'intelligence. De nos jours, on est sorti de cette définition humaine pour une définition plus large. L'intelligence, maintenant, c'est la capacité à s'adapter à un environnement changeant. Avec cette définition d'intelligence, la plupart des espèces animales sont intelligentes. Et même maintenant, on parle d'intelligence avec la même définition pour les plantes. Donc, en réalité, on est en train d'entrer dans un autre monde où on insiste beaucoup plus sur la communauté, je dirais, des êtres vivants que sur la différence entre l'humain et les autres.
C'était Le procès des rats d'Autun, second épisode, mythe ou réalité. Merci à Ninon Maillard, maîtresse de conférence en histoire du droit à l'Université Paris-Nanterre, Éric Baraté, professeur d'histoire contemporaine à l'Université Lyon 3, Gabriel Rosenberg, professeur d'histoire à la Duke University, et David Elkens, maître de conférence en histoire moderne à l'Université de Bourgogne. Extrait de Réfutation d'Helvétius de Denis Diderot et d'Histoire des martyrs de Jean Crespin, lu par Élodie Hubert. Documentation Anne-Lise Signoret. Archives INA, Inès Barja. Prise de son Florent Layani, Anthony Thomasson, Dofar Guéride et Sébastien Royer. Mixage Mathieu Tourin. Attaché de production Sylvia Favre. Coordination Christine Bernard. Un documentaire de Grégoire Ossoa, réalisé par Agnès Catou.